Oui, je passe tout de suite la parole à Sol Aparicio, psychanalyste à Paris. Alors, avec comme titre « Au sujet de la responsabilité ».
Alors, j'ai rajouté à mon titre le mot « note ». Donc, « note », sujet de la responsabilité. Alors, en guise d'avertissement, je vais beaucoup citer Lacan. Voilà, je le dis, comme ça j'anticipe le reproche que vous pourriez m'en faire, que je me fais, puisque je participe souvent aux lamentations qui sont les nôtres parfois concernant les exposés ou les citations. Alors, en voici la première. Lacan dit quelque part qu'il se déplace dans Freud, qui se déplace dans son œuvre, ce qu'il appelle l'événement Freud, l'événement que sont ses écrits. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être le dire aussi de nous, avec Lacan. Nous nous déplaçons dans Lacan. En tout cas, je le dis pour moi, depuis le temps que je le lis, je peux dire, je m'y déplace, pas toujours avec la même allure, jamais avec aisance. J'y cherche, je dirais, des aides à penser. À penser la pratique et à penser cette subjectivité de notre époque, comme il disait, qui m'échappe un peu. Voilà. Alors, l'éthique n'est plus ce qu'elle était. C'est la phrase qui m'est d'abord venue et que j'ai failli proposer, je me suis retenue, j'ai failli proposer comme titre pour ma contribution de ce soir. C'était une façon de reconnaître le fait que le terme éthique est aujourd'hui partout présent. Depuis les comités d'éthique, censés orienter l'action de toute institution qui se respecte, en passant par l'éthique verte, mise à l'affiche des magasins bio, jusqu'au placement éthique et solidaire proposé par certains organismes financiers. On pourrait s'amuser à en établir une liste à la Georges Perec, une liste des usages actuels du mot éthique. S'il était encore de ce monde, Lacan n'aurait sûrement pas dit, comme il le fit en inaugurant l'année de séminaire consacré à l'éthique de la psychanalyse, je le cite, « J'ai choisi un mot qui ne me paraît pas de hasard, morale, aurais-je pu dire encore. Si je dis éthique, ce n'est pas pour plaisir d'utiliser un terme plus rare. » Fin de citation. Le terme a cessé d'être rare. Nous avons affaire avec, à la fois avec ce que l'on peut appeler son usure et avec l'usage qui, dans la langue, en est venu à distinguer l'éthique de la morale. Terme qui était son synonyme, ces deux termes renvoyant l'un et l'autre, comme vous savez, aux mœurs grecques ou latines, je veux dire en langue grecque ou latine. Le moment, notre aujourd'hui, notre bel aujourd'hui, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, c'est Mallarmé, le moment me paraît donc bien choisi pour que nous abordions ce thème. Il nous donne, je dirais, l'occasion d'essayer de mettre au clair et de faire valoir ce qu'il en est dans notre champ freudien. Bon, premier lapsus, je voulais dire champ lacanien. J'ajouterai d'ailleurs qu'il m'est apparu que cette année, il y a une cohérence entre les trois thèmes que nous avons mis au travail. Le thème du séminaire école, la conscience et la politique, le thème du séminaire champ lacanien, donc la voie éthique de la psychanalyse, et le thème des collèges cliniques sur la sexualité, la clinique de la différence entre les sexes. Chacun de ces thèmes pourrait conduire à montrer comment, dans l'enseignement de Lacan, politique, éthique et sexualité sont intriqués, pour ne pas dire noués. Je vais peut-être essayer de montrer ça dans le travail que je fais au collège clinique. Lacan a fait grand cas de l'éthique, mais je dirais que, tout en lui réservant un emploi substantif, il emploie rarement l'adjectif, je dirais qu'il l'écrivait avec un petit « et », un petit « t », puisque l'éthique est, selon lui, relative. Elle est relative au discours. Il avait d'abord cité à ce propos un mot de Pascal, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », pour indiquer que le problème de l'éthique commence à se poser à partir du constat d'un certain relativisme des mœurs, des institutions et de la vérité elle-même. Si donc l'éthique est relative au discours, alors à chaque discours une éthique, que nous dirons dès lors particulière. Ce qui ne diminue en rien sa portée, même si cela délimite le domaine de son exercice. Celle qui est propre au discours analytique, née de ce fait, n'est pas exportable. J'espère que c'est le second et non pas le deuxième. Merci.
Ils sont excellents.
Donc, je disais, éthique particulière, ce qui ne diminue en rien sa portée, même si ça délimite le domaine de son exercice. L'éthique qui est propre au discours analytique n'est de ce fait pas exportable, voulais-je dire, dans d'autres discours. Lacan le dit lui explicitement dans Télévision, vous vous en souvenez. Il le dit à celui qui l'interroge, je le cite, « Prenez-en de la graine si vous croyez qu'en d'autres discours, celle-ci puisse prospérer. Mais j'en doute. » Or, si l'éthique est relative au discours, cela suppose non seulement qu'elle n'est pas universelle, mais aussi qu'elle n'est pas, à proprement parler, relative au sujet. Je veux dire, non pas qu'il n'en soit pas concerné, bien sûr, mais que l'éthique n'est pas un attribut du sujet, ni d'une personne. Elle n'est pas prédicable. Ce n'est pas pour rien que Lacan a tenu à faire remarquer qu'il avait bien parlé de l'éthique de la psychanalyse, et non pas des psychanalystes. L'éthique n'est pas la déontologie. Celui qui se fait sujet d'un discours, de ce fait, du même mouvement, se trouve soumis à l'éthique que ce discours comporte. L'analysant venant occuper la place du sujet dans le discours analytique, sans le savoir, répond à l'impératif propre à son éthique. Il répond, me direz-vous, ou pas. Oui, mais il me semble qu'on se trouve alors devant le seul cas qui, selon Lacan, mérite que la psychanalyse lui soit refusée, celui de la canaille, qui devient bête. Cela dit, il arrive parfois que ce soit sous le mode hypothétique au conditionnel que Lacan évoque l'éthique de la psychanalyse, ce qui laisserait place à la question, y en a-t-il une ? Si Lacan affirme au début du séminaire l'éthique de la psychanalyse qu'il y a bien une éthique de l'analyse, en le concluant, il dit que la question se pose. C'est, me semble-t-il, l'indication de la tâche à laquelle il s'est attelé. Celle d'extraire l'éthique que l'expérience de l'analyse comporte, de l'élaborer. Ainsi parle-t-il à l'époque de l'élaboration d'une éthique propre à la subversion du sujet qu'annonce la psychanalyse. Et encore, bien plus tard, en 1974, lors d'une séance de son séminaire où il critique la notion de voix, une notion de voix propre au Tao, Ainsi parle-t-il à ce moment-là de la possibilité de nous forger, je le cite encore, une autre éthique. Une éthique qui se fonderait, conditionnelle, une éthique qui se fonderait sur le refus d'être non dupe, sur la façon d'être toujours plus fortement dupe de ce savoir, de cet inconscient qui, en fin de compte, est notre seul lot de savoir. C'est un peu comme si l'éthique de la psychanalyse était en fait toujours à faire. Si, tout au long de son enseignement, Lacan a parlé si souvent de l'éthique, à travers l'histoire, l'éthique à travers l'histoire, ça commence avec les références à celle d'Aristote, de Spinoza, de Kant et de Jeremy Bentham, s'il l'a fait, c'est parce qu'il considérait que la psychanalyse mène à une révision de l'éthique. Il s'agissait pour lui de voir comment ce terrain dont Freud a fait son champ, d'autres le voyaient avant lui. Puisque l'hypothèse de l'inconscient et le principe de plaisir qui l'origine rompent avec elle, rompent avec ses éthiques. L'éthique consiste, je cite là le séminaire 7, consiste essentiellement en un jugement sur notre action. Et l'analyse, justement, apporte quelque chose qui s'oppose comme mesure de notre action. C'est quelque chose dont Lacan faisait en 1960 l'étalon de la révision qu'il proposait. Ce quelque chose est le rapport de l'action au désir qui l'habite. C'est pourquoi la seule chose dont on puisse être coupable est d'avoir cédé sur son désir. Assertion que nous formulons parfois à l'impératif, nous disons ne pas céder sur son désir, non sans raison clinique, puisque cette assertion s'oppose à la culpabilité qui, dans la névrose, répond à l'impératif du surmoi, l'impératif de jouissance. Elle devient ainsi, cette assertion, un corollaire du Voeswar Solich Werden Freudien que Lacan nous a permis de reconnaître comme le seul devoir du sujet dans l'analyse. Là où c'était, il ajoute là comme sujet parfois, là où c'était, dois-je advenir. Alors, on peut noter ici qu'il est toujours question du même devoir lorsque Lacan dit qu'il tire de sa pratique l'éthique du bien-dire, après avoir mis en relief que le devoir de bien-dire correspond à celui de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. Je dirais que c'est la traduction en langue française de l'aphorisme de Freud. Comment dit-on « Voeswar Solich Werden » en français? Eh bien, on dit « devoir de bien dire » ou « de se retrouver dans l'inconscient, dans la structure ». Sauf que, entre une formulation et l'autre, il y a eu des élaborations sur les discours, bien sûr. Ce devoir est un devoir propre au discours psychanalytique. Il concerne l'analysant et l'analyste. S'il est le principe qui guide la tâche analysante, il s'applique tout d'abord à l'acte de l'analyste. L'analyste, soit celui à qui reviennent la plupart, mais pas toutes, les remarques de Lacan au sujet de la responsabilité. Ces remarques de Lacan, nombreuses au sujet de la responsabilité des analystes, sont tantôt référées à l'intention, tantôt à l'extension. Les unes concernent donc la responsabilité de chaque analyste dans sa pratique, responsabilité dont le caractère intrinsèque, je dirais, se trouve définitivement affirmé avec la conception de l'acte analytique dont l'analyste a la charge. Les autres remarques concernent les héritiers de Freud, comme il disait, et ce devoir qui leur ou qui nous revient dans notre monde. Vous avez reconnu la phrase de l'acte de fondation. Mais que veut donc dire la responsabilité dans notre champ? C'est là une notion à la portée de tout un chacun, étroitement liée à la loi et couramment entendue comme l'obligation de rendre compte de ses actes, d'en assumer les conséquences. Tant et si bien qu'elle peut paraître ne pas aller de soi, là où l'on fait place à l'inconscient. Jean-Charles Pascal nous rappelait à la séance précédente de ce séminaire que pour saint Augustin, il n'y a pas de faute s'il n'y a pas d'acte volontaire, délibéré. En effet, pour pouvoir répondre de ses actes, ne faut-il pas être conscient, s'en souvenir? C'est d'ailleurs la question qui a été débattue par les philosophes à la fin du XVIIIe. Pour être considéré responsable de ses actes, il faut être assuré de son identité personnelle, ce qui ne saurait avoir lieu en l'absence de mémoire. Bref, comment dans ces conditions pourrais-je être tenu pour responsable si, pour paraphraser Freud, je ne suis pas maître dans ma propre maison? Eh bien, justement, le sens étymologique de la responsabilité auquel le discours de Rome nous renvoie suggère plutôt l'adéquation de celui-ci, de ce sens étymologique, à la division du sujet que l'inconscient introduit. Le mot « responsabilité », dans sa forme substantive, est en fait né très tardivement, à la fin du XVIIIe, 1783, d'après le Bloch et von Wartburg. Le mot « responsabilité » est donc contemporain de cette grande crise révolutionnaire de la morale que Lacan évoque dans son séminaire L'éthique longuement, dans les écrits aussi, Kant avec ça, bien sûr. Mais responsabilité renvoie étymologiquement à responsable et à répondre, qui au XIVe, depuis le XIVe, en tout cas au XIVe, voulait tout d'abord dire se porter garant. On se porte garant d'un autre, de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi, ce que le renvoi au sens étymologique de la responsabilité suggère, c'est un devoir pour le sujet parlant de se porter garant, garant de sa division, de celle attestée dans le fait qu'il ne désire qu'en tant qu'autre, pour en dire. Devoir imputable en même temps à l'analyste, Lacan ne cesse de le marteler, puisque c'est de l'analyse qu'il est question. Cependant, la question est par lui soulevé dans un champ beaucoup plus large, puisque c'est à ce propos qu'il convoque non seulement l'éthique, mais la science. Dans l'un et l'autre cas, ce qui est en cause, c'est le rapport du sujet au réel, à ce qui revient et que l'on retrouve toujours à la même place. Que ce soit le problème du mal en l'homme, celui de la jouissance, ou les astres, dont l'éternel retour est à l'origine de cette structuration de la réalité par la physique qu'est la science. C'est Lacan qui le dit comme ça dans l'éthique. Est en cause donc le sujet de l'inconscient, celui auquel la psychanalyse a affaire, celui que Lacan fait équivaloir dans la science et la vérité au sujet de la science dite moderne que la physique a fondée. Pour mieux dire, je le cite, c'est d'un moment du sujet qu'il s'agit, moment historiquement défini, qui est un corrélat essentiel de la science. Voilà le sujet de la science, qui ne se confond ni avec l'homme, ni avec la personne, ni avec l'individu, et qui n'a rien à voir avec le sujet psychologique. C'est dans ce contexte que Lacan soutient que, de notre position du sujet, nous sommes toujours responsables. Comment l'entendre? Longtemps, j'ai pour ma part cru entendre là l'écho de la sentence de Freud, non pas de Freud mais de Goethe, que Freud cite à plus d'une reprise. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. C'est l'idée d'avoir à assumer que l'inconscient, portant des marques de cet héritage, nous détermine. L'acquisition en question, acquiert-le, est l'acquis de savoir que la parole analysante permet, ce que nous appelons subjectivation, avènement du jeu
là où c'était.
Or, il me semble maintenant que cette position dont nous sommes responsables est inséparable des considérations de Lacan sur l'incidence de la science, avec le mystérieux désir qui l'anime. En d'autres termes, il ne s'agit pas dans cette position du sujet de comment je se positionne, ce qui équivaudrait à une psychologisation de la question, mais du fait d'être, de venir ou de se trouver en position de sujet dans un discours donné. Quelques mots de la science et la vérité concernant le sens moderne de la science qui s'oppose comme absolu résonnent aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, résonnent aujourd'hui avec une particulière acuité. Je cite « la forme galopante de son immixtion dans notre monde ». L'immixtion de la science dans notre monde, grâce aux technologies de pointe, que son progrès incessant a rendu possible, est en effet galopante. Pensons à la PMA, au clonage humain, à l'intelligence artificielle, mais aussi à cette intelligence augmentée à laquelle sont probablement promis nos petits-enfants, ou tout simplement à Sophia, le joli robot humanoïde qui a obtenu la nationalité saoudienne l'an dernier. Or, ce que Lacan nous fait remarquer à ce propos, c'est que à tout cela, lui paraît être radical une modification dans notre position de sujet, au double sens, qu'il y est inaugural et que la science la renforce toujours plus. Donc, acte. Que cela nous concerne de bien plus près que nous le pensons, que nous ne le réalisons habituellement, cette articulation étroite existante entre le sujet et la science, Lacan l'a fait apparaître en avançant que la place qu'elle occupe pour nous, la science, n'est autre que celle de l'objet, de la chose. C'est dire qu'il a fait une affaire intime. Il le formule à plusieurs reprises, de façon surprenante dans le séminaire 7, en disant « à la place, je le cite, à la place de l'objet impossible à retrouver au niveau du principe du plaisir, il est arrivé quelque chose qui n'est rien que ceci, qui se retrouve toujours, mais se présente sous une forme énigmatique, le monde de la physique moderne. » Plus brièvement, à la fin du séminaire 11, le corps de la science, nous n'en concevrons la portée qu'à reconnaître qu'il est dans la relation subjective l'équivalent de l'objet cogita. Chacun ici, ou presque, je suppose, chacun se souvient du début de la proposition sur la passe et de cette référence explicite à la responsabilité. L'analyste de l'école, dès lors qu'il veut que l'école le garantisse, est invité par Lacan à devenir responsable du progrès de l'école, devenir responsable de son expérience même. Un peu plus loin dans ce même texte, alors qu'il parle de la destitution subjective inscrite sur le ticket d'entrée, Lacan remarque que le réel de la science destitue le sujet bien autrement dans notre époque. Et il relie alors la responsabilité des analystes à la relation de la psychanalyse avec la science, en disant ceci. Voilà où nous démissionnons de ce qui nous fait responsables, à savoir la position où j'ai fixé la psychanalyse dans sa relation à la science, celle d'extraire la vérité qui lui répond en des termes dont le reste de voix nous est alloué. Fin de citation. Vous conviendrez peut-être avec moi que c'est là une autre façon de dire que, de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. Cette autre façon met en relief que nous sommes faits responsables. Voilà où nous démissionnons de ce qui nous fait responsables. Nous sommes faits responsables, il nous reste à ne pas démissionner. Et ce qui nous fait responsable est donc l'articulation que Lacan a établie entre la psychanalyse et la science, en fixant, comme il dit, la psychanalyse dans la position d'avoir à extraire la vérité qui répond à la science, celle que la science exclut. Il ne s'agit plus ici du caractère scientifique ou pas de la psychanalyse, mais de sa spécificité en tant que discours, de ce qu'elle véhicule et de ce qu'elle peut faire entendre. La vérité tient au réel, cette télévision encore, la vérité tient au réel par l'impossible auquel on se heurte de ne pouvoir la dire toute. C'est impossible matériellement, les mots y manquent. Il apparaît alors que le dire vrai de l'analyse y a constamment à faire. Au réel, donc. Alors, je reviens pour finir, pour terminer, à la question que j'ai esquissée au début, celle d'une distinction entre éthique et morale. Alors, à la page 39 de télévision, ça c'est l'ancienne édition, je m'étais proposé de chercher la page dans l'édition des autres écrits, mais j'ai oublié. Donc, page 39 de télévision, à propos de la tristesse. Vous connaissez le passage. À propos de la tristesse, Lacan fait une remarque qui peut surprendre. Qui peut surprendre en ce qu'elle ressemble fort à un jugement moral. Il affirme sans détour, en renvoyant, il est vrai, à Dante et Spinoza, il affirme sans détour que la tristesse est un péché. Et il précise ce que cela veut dire. Une lâcheté morale. Ce passage, bien connu parmi nous, me paraît essentiel à la lumière de notre interrogation d'aujourd'hui sur la voie éthique de la psychanalyse. Ça me paraît essentiel en ceci qu'il révèle le joint intime, soit la frontière et à la fois l'articulation, le joint intime entre morale et éthique, le passage possible de l'une à l'autre. La bascule, pourrait-on dire, entre le discours du maître et le discours analytique. Lacan nous montre dans cette page cette bascule. Il l'opère dans ce passage en faisant intervenir l'inconscient. Il montre comment la prise en compte de l'inconscient, de l'existence de l'inconscient, nous introduit à un changement de discours. On quitte le registre des états d'âme, celui de la sentimentalité du par-l'être, comme on dirait dans la suite, pour prendre en compte la façon dont le corps est affecté par la structure. Ce qui était auparavant qualifié de péché et jugé en termes de faute et de lâcheté morale, épinglant le pécheur comme lâche, devient autre chose. Dès que Lacan le situe, comme péché ou lâcheté, au regard du devoir de bien dire ou de s'y retrouver dans l'inconscient. Je dirais donc que l'on passe ainsi de la morale à l'éthique en empruntant la voie de l'inconscient, ce qui suppose que l'on quitte le registre de la personne pour se tourner vers le sujet du discours. Voilà, je vous remercie, je vous ai arrêté là.